VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, il est 18h30 en temps universel. Jacques Aristide en votre compagnie. Très content de vous retrouver pour Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, en direct de la capitale américaine. Les titres en ce mardi 6 mars 2018. L'attaque de Ouagadougou, le dernier bilan, fait état de 8 militaires burkinabés tués. Tout à l'heure, gros plan sur le groupe djihadiste qu'il a revendiqué.
C'est un groupe qui est installé dans le Sahel. Il s'agit d'ACMI, il s'agit du FLN, le mouvement pour la libération du Machina. Il s'agit aussi du groupe Ansardine.
Au Togo, l'opposition va de nouveau descendre dans la rue la semaine prochaine. Au moins 16 morts dans des violences entre éleveurs et agriculteurs au Nigeria. Le leader de la Corée du Nord va rencontrer le président sud-coréen lors d'un sommet historique à la fin du mois prochain. Et puis, ne manquez pas non plus vos rendez-vous habituels avec l'économie et les sports dans 10 minutes. Au Burkina Faso, des arrestations dans l'enquête sur le double attentat de vendredi dernier à Ouagadougou, la capitale. La procureure Maïsa Sérémé a fait le point cet après-midi en résumé avec Bagassi Koura.
Elle affirme que 8 personnes ont été interpellées et sont toujours en garde à vue. 8 assaillants ont été tués lors de l'attaque de l'ambassade de France et de l'état-major de l'armée. Ils étaient tous en civil, selon la procureure du Faso. Il y en avait qui étaient des teints noirs. Ils s'exprimaient en langue bambara et en arabe. À l'étape actuelle, on ne peut pas affirmer s'ils étaient des Burkinabés, a dit Madame Sérémé. Les assaillants sont venus en voiture et en moto, a-t-elle précisé. Selon le dernier bilan, 8 militaires burkinabés ont été tués. L'attaque a aussi fait 85 blessés, dont 61 militaires et 24 civils. Samedi, un incident lors d'un barrage de contrôle de police vers la présidence du Faso avait fait un mort. La procureure ne veut pas faire de lien pour l'instant entre les attaques de vendredi dernier et l'incident en question. Demain, les 8 militaires seront enterrés à Ouagadougou.
J'ajoute que les autorités musulmanes et catholiques burkinabés ont condamné ces attaques djihadistes. Nous y reviendrons dans le segment magazine tout à l'heure. En Côte d'Ivoire, la gendarmerie de la ville de Mbayakro a été incendiée aujourd'hui au cours d'une émeute de lycéens après le meurtre hier d'une élève de 14 ans. Elle a été retrouvée égorgée, vidée de son sang. Les lycéens qui reprochent aux gendarmes leur inaction demandent l'ouverture d'une enquête afin qu'on puisse mettre aux arrêts le ou les auteurs du crime. Suspendu en raison de l'ouverture le 19 février dernier d'un dialogue avec le pouvoir, les manifestations au Togo vont reprendre la semaine prochaine. La coalition de l'opposition qui proteste depuis septembre contre le président fort Gnassingbé indique que le gouvernement n'a pas honoré ses engagements en vue des prochaines élections. De Lomé, le compte-rendu de Kay Lorson.
Des doutes germent dans l'esprit des Togolais sur la réussite du dialogue politique en cours dans le pays. Et pour cause, la coalition des 14 partis de l'opposition décide de battre le pavé à nouveau. Dans un communiqué, la coalition fait savoir qu'elle se sent dorénavant déliée de son engagement à geler ses manifestations. La coalition justifie cette décision par la poursuite du processus électoral par le gouvernement, malgré la demande contraire émise par le dialogue. Ainsi, la coalition des 14 invite les Togolais à des marches dans plusieurs villes du pays les 13, 14, 15 et 17 mars prochains. Notons que ce mardi, la coalition s'est déplacée à Accra au Ghana pour rencontrer le facilitateur, le président ghanéen Nana Akufo-Addo. Ouvert le 19 février dernier, le dialogue politique a été suspendu au second jour des discussions pendant que le point sur le retour à la constitution originelle de 1992 divise diamétralement le parti au pouvoir et l'opposition. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
En Guinée, cacophonie à la Cour constitutionnelle, des conseillers déclarent non conforme à la loi le remplacement de 3 membres de l'institution. La fronde fait suite au tirage au sort tenu hier par le président de la Cour, Kelly Fassal, pour le renouvellement des membres. Non content de cette procédure, 8 conseillers de l'institution ont voté pour la destitution du président de la Cour. De Conakry, la correspondance de Zakaria Camara.
La nouvelle a fait la une des journaux. Elle reste encore l'un des grands titres des sites d'information. Mais Thiele Fassal a-t-il été destitué? L'une des réponses se trouve dans le procès verbal d'une assemblée plénière tenue par 8 conseillers de la Cour constitutionnelle. Ce document a été publié dans la presse. Les signataires considèrent que les conditions et les modalités du tirage au sort n'ont été portées à la connaissance d'aucun des 8 conseillers. Des conseillers qui accusent le président de la Cour constitutionnelle de procéder au renouvellement dans son bureau et dans les conditions contraires à la Constitution, à la loi organique et au règlement intérieur. Pour toutes ces raisons, les 8 conseillers ont décidé de destituer Thiele Fassal de ses fonctions de président de la Cour constitutionnelle avec effet immédiat. Le procès verbal dit aussi que l'Assemblée plénière fixera ultérieurement la date à laquelle il sera procédé au renouvellement du tiers des membres de la Cour. Pour le moment, pas de réaction officielle du président de la Cour constitutionnelle. Le renouvellement s'est bien déroulé, avait déclaré à la presse le président de l'Institution nationale indépendante des droits de l'homme qui a participé au tirage au sort. Selon Mamadi Kaba, il est anticonstitutionnel de mettre le nom du président de la Cour au tirage au sort comme le réclamaient les 8 conseillers. Conakry, Zakaria Kamara, VOA Afrique.
6 responsables religieux ont été arrêtés au Rwanda pour s'être opposés à la fermeture de plus de 700 églises non conformes aux normes de sécurité et d'hygiène récemment décidées par le gouvernement. Blanche Sanou nous en dit davantage.
Les autorités rwandaises avaient annoncé que 714 églises et une mosquée devaient fermer à compter du 1er mars. Des responsables religieux ont critiqué cette décision, estimant que les autorités se montraient trop strictes. Après la suspension, certains leaders religieux ont commencé à tenir des rencontres illégales pour faire obstruction à la directive, a déclaré le porte-parole de la police rwandaise, Théos Badegué. La police a donc mené des enquêtes pour trouver les cerveaux derrière cet acte illégal. 6 responsables d'église pentecôtistes, dont l'évêque Innocent Rugagi, ont été arrêtés. Par ailleurs, le Rwanda prépare une nouvelle loi qui devrait rendre plus difficile l'ouverture de nouvelles églises. Si cette loi est adoptée, les prédicateurs devront obligatoirement suivre des cours de théologie. Certains hommes d'église accusent le gouvernement de Kigali de tenter de contrôler le message qu'ils font passer à leurs fidèles dans un pays souvent accusé par les défenseurs des droits de l'homme de bafouer la liberté d'expression.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le cahier international, l'ONU déplore que la guerre en Syrie ait pris une nouvelle ampleur. D'après un rapport de sa commission d'enquête sur les crimes de guerre, publié aujourd'hui, les bombardements effectués par l'aviation russe et la coalition internationale sous commandement américain ont été particulièrement meurtriers et ont fait de très nombreuses victimes civiles. La commission précise que les raids aériens russes menés fin 2017 sur un marché d'une localité rebelle en Syrie, qui ont fait au moins 84 morts, pourraient constituer tué un crime de guerre. Le régime du président Bachar al-Assad est lui accusé d'avoir eu recours à des armes chimiques, notamment dans la Ghouta orientale, près de Damas, tenue par les rebelles. La Corée du Nord est disposée à avoir des discussions avec les États-Unis concernant la dénucléarisation de la péninsule et la normalisation des relations bilatérales, d'après la Corée du Sud. L'information a été fournie alors que les deux Corées se sont mises d'accord sur la tenue d'un sommet entre les deux pays. Le premier en 10 ans, à la fin du mois d'avril. Les détails avec Abdourahman Zia.
Un émissaire sud-coréen de retour de Pyongyang a annoncé que la Corée du Nord lui a affirmé qu'elle renoncerait à l'arme atomique le jour où la sécurité de son régime serait garantie. Chung Hee-yong, conseiller pour la sécurité du président sud-coréen, et 4 autres responsables ont rencontré hier le dirigeant Kim Jong-un. Il s'agit des plus hauts responsables sud-coréens à se rendre à Pyongyang depuis 10 ans, dans la foulée du rapprochement entamé à l'occasion des Jeux olympiques d'hiver. Le sommet intercoréen aura lieu fin avril dans la zone démilitarisée qui sépare le nord du sud. En réaction, le président des États-Unis, Donald Trump, a salué ce mardi des progrès possibles sur le dossier nord-coréen. Pour la première fois depuis des années, un effort sérieux est fait par toutes les parties concernées, a tweeté Donald Trump. Le monde regarde et attend, peut-être de faux espoirs, mais les États-Unis sont prêts à s'engager, a-t-il ajouté.
Également dans l'actualité, le Sri Lanka a proclamé l'état d'urgence aujourd'hui pour 10 jours après des émeutes dirigées contre la minorité musulmane et des violences intercommunautaires qui ont fait au moins 2 morts dans la région touristique de Kandy. Le gouvernement indique avoir pris cette décision, une première depuis 7 ans, face à l'échec de la police à faire cesser les affrontements. Le nombre de filles très jeunes mariées de force dans le monde, s'il reste élevé, a diminué depuis 10 ans, notamment en Inde, où il a été quasiment divisé par 2 d'après l'UNICEF. On note également une diminution dans les pays d'Afrique où l'on compte 1/3 des mariages d'enfants du monde. Ainsi, l'Éthiopie, l'un des 5 pays d'Afrique où cette pratique était le plus courante il y a 10 ans, a vu leur prévalence diminuer 1/3 depuis cette date. Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale là, ce soir. Sans plus tarder, un résumé de l'actualité économique en Afrique. Il est l'heure de la Minute Éco avec Eric Manirakiza en direct avec nous ce soir. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jacques. Le trafic ferroviaire entre la RDC et l'Angola a repris lundi après 34 ans de suspension. Cette voie va faciliter l'évacuation des matières premières congolaises vers le port angolais de Lobito. Le premier train est parti lundi transportant 50 containers. Ce tronçon de 1300 km était fermé à cause de l'insécurité. Le président Joseph Kabila a reporté pour mercredi la séance de travail avec les 7 principaux opérateurs miniers de son pays. Cette rencontre était initialement prévue mardi pour écouter leurs préoccupations sur la révision du code minier de la RDC. Le projet de réforme envisage de multiplier par 5 une taxe sur les métaux stratégiques, notamment le cobalt. Il instaure aussi une redevance avec le taux de 10%. Et l'économie sud-africaine a enregistré une croissance de près de 1,5% l'an dernier, soit le double de 2016. Les principaux moteurs de l'économie sont notamment le secteur agricole, les finances et les mines. Depuis la prise de pouvoir de Cyril Ramaphosa, la devise nationale s'est ressaisie pour atteindre son plus haut niveau face au dollar en 3 ans. Aux États-Unis, le chef du Conseil économique national, Gary Cohen, s'est opposé à la décision du président Donald Trump d'imposer 25% de taxes sur les importations d'acier et de 10% sur l'aluminium. Monsieur Cohen, qui défend seul le libre-échange, a même menacé de démissionner, estimant que ces mesures étaient dangereuses pour l'économie. En revanche, les conseillers de Donald Trump en matière de commerce ont tous soutenu sa position.
Et maintenant, tour d'horizon de l'actualité sportive, nous retrouvons Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
Jour J en Europe pour les 8e de finale retour de la Ligue des Champions.
Et oui, le coup d'envoi à 19h45 temps universel pour le Paris Saint-Germain orphelin de Neymar qui doit surmonter sa défaite de 3-1 à l'aller et sortir le Real Madrid tenant du titre de Cristiano Ronaldo pour devenir crédible et s'éviter une grosse crise. On rappelle que depuis 2011, le PSG sous pavillon qatari n'a jamais atteint les demi-finales de la compétition réelle. L'autre match de la soirée, Liverpool a la qualification presque au bout du pied en accueillant Porto qu'il avait battu 5-0 à l'aller grâce notamment au triplé du Sénégalais Sadio Mané.
Demain, 2 autres clubs anglais en piste.
Finaliste de la saison dernière, la Juventus Turin a concédé le nul contre Tottenham à l'aller, 2-2, et se retrouve en mauvaise posture, tandis que Manchester City entrevoit déjà les quarts de finale après sa victoire 4-0 à l'aller contre le FC Bâle.
Sur le continent africain, les 16e de finale aller de la Ligue des Champions.
Et le beau succès cet après-midi en Tanzanie à l'extérieur des Township Rollers, le club botswanais qui a battu 2-1 les Young Africans. À suivre ce mardi, le MFM FC du Nigeria contre le MC Alger, l'Étoile du Sahel, le club tunisien qui accueille le plateau du Nigeria, le Roya de Guinée face à Génération Foot du Sénégal, et puis Al Ahly d'Égypte face au club gabonais du CF Mounana.
En Coupe CAF également, les premiers matchs.
Le club congolais de la Mancha contre Al Ahly Chandi du Soudan. Match nul, 1-1 entre Motema Pembe et le Deportivo Niefang. C'est un club de Guinée équatoriale. Le Petro Atlético d'Angola face au Supersport d'Afrique du Sud. Belouizdad d'Algérie contre Nkana de Zambie. Berkane du Maroc contre le club africain de Tunisie. Et puis le Raja Casablanca qui accueille le FC Nouadhibou, le club mauritanien.
Et pour terminer, NBA championnat de basket nord-américain.
Bien aidé par les 33 points de LeBron James, Cleveland a battu Détroit 122 à 90. Le Heat de Miami s'est imposé 125 à 103 contre Phoenix. Et puis les Bucks de Milwaukee sont tombés 89 à 92 contre les Pacers à Indianapolis. De son côté, Boston n'a pas trop souffert en l'absence de son meneur star, Kyrie Irving, blessé à un genou. Les Celtics ont pris le meilleur sur Chicago, 105 à 89. Enfin, victoire de San Antonio sur Memphis, 100 à 98.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Il est l'heure maintenant d'aborder notre tranche magazine dans Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide, toujours avec vous. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Le double attentat Ouagadougou, quartier général de l'état-major des armées burkinabé et l'ambassade de France Burkina, a été revendiqué par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. C'est une coalition de quatre entités djihadistes du Sahel liées à Al-Qaïda. Pourquoi cette coalition? Yacouba Ouedraogo a posé la question à Ahmed Job, rédacteur en chef du service francophone de l'agence Al-Akhbar.
C'est une coalition de djihadistes, née donc de la fusion des principaux groupes djihadistes au nord du Mali, dont Ansar Dine, l'ex-chef d'Ansar Dine, Iyad Agrali, est lui-même le chef du groupe. Le groupe est né en mars 2017. On dénote seulement entre mai et octobre 2017 31 attaques que le groupe a revendiquées. Et ce sont des attaques qui ont coûté la vie à 65 personnes. Sa première attaque, c'était en août 2017. C'était contre les casques bleus. Ça veut dire qu'eux ciblent la présence armés dans la sous-région. Ils ne cibleraient pas peut-être les populations pour leur dire que nous sommes là pour un peu balayer la zone de ce qu'on appelle, avec leur jargon, les mécréants et les croisés.
C'est à travers votre agence Al-Akhbar que ce groupe de soutien à l'islam et aux musulmans a revendiqué l'attaque de l'état-major général des armées à Ouagadougou et l'ambassade de France aussi. Pourquoi vous?
Ce n'est pas la première fois que l'Akhbar donc publie des revendications des groupes actifs dans le nord du Mali. Mais pourquoi nous? Cette question, je pense qu'il faudrait plutôt la poser à ces groupes, à nous, Al-Islam et Muslimin, pourquoi ils ont choisi cela. En tout cas, nous, on a eu la primauté de l'information. Quand une information nous arrive, on va juste publier ce qu'en est une information. Tout ce qui est propagande et autres, nous ne les diffusons pas. Je vais vous donner un exemple. Quand il y a eu récemment une vidéo de l'otage française Sophie Petronin, on a simplement mis le texte parce que sur le plan humain, on ne pouvait pas diffuser cette vidéo et on a décidé en rédaction de ne pas le faire.
Vous l'évoquiez tout à l'heure, ce groupe de soutien à l'islam et aux musulmans est dirigé par Iyad Agali. Pourquoi Iyad?
Peut-être parce que Iyad, il a une base populaire, il est de l'extrême nord du Mali, à Kidal, et il a des tribus qui lui sont favorables, donc ça peut être une source de recrutement donc de combattants djihadistes, mais également Iyad, c'est quelqu'un qui connaît la région parce qu'il a déjà dirigé un mouvement, l'ex-Ansar Dine, qui fait partie donc de la fusion de Nusrat al-Islam al-Muslimin, et il y a donc connaît très bien le terrain.
L'attaque de l'état-major général des armées de Ouagadougou et de l'ambassade de France dénote d'une certaine organisation de ce groupe-là. Il faut craindre cette coalition.
Mais bien sûr, quand ils ont commencé, ils ont dressé une liste de 11 pays dont fait partie les États-Unis et la France et certains pays africains, dont le Burkina Faso. Il y a d'autres pays qui n'ont pas encore été frappés, comme le Sénégal et la Guinée. Le Burkina Faso, c'est un terrain d'affrontement entre deux rivaux, la branche de l'État islamique au Sahel, mais également Al-Qaïda, Maghreb islamique, qui est devenu aujourd'hui un petit peu dans cette vision de Nusrat al-Islam al-Muslimin. Donc il y a cette rivalité pour occuper le terrain.
Notre confrère Ahmed Diop était en ligne de Nouakchott, la capitale mauritanienne.
Le chef de la diplomatie américaine, Rex Tillerson, effectue sa première visite en Afrique avec pour escale le Tchad, Djibouti, l'Éthiopie, le Kenya et le Nigeria. L'occasion de faire le point sur la politique africaine de l'administration Trump. Lutte contre le terrorisme, promotion de la paix, sécurité, bonne gouvernance, commerce, investissement. Quels sont les intérêts des États-Unis en Afrique?
Le nouveau locataire de la Maison Blanche va-t-il continuer la politique mise en place par ses prédécesseurs? L'isolationnisme prôné par la Maison Blanche pourrait-il nuire aux relations entre les États-Unis et l'Afrique? On en discute dans Washington Forum. Morgan Guériac avec vous. Rendez-vous ce jeudi à 19h universel sur VOA.
En République démocratique du Congo, plusieurs régions du pays encouragent la culture du reboisement pour lutter contre le déboisement massif et la pollution atmosphérique. C'est le cas à Irambi-Katana, dans la province du Sud-Kivu, où des jeunes, accompagnés par l'ONG Dignité Impact, ont planté plus de 1000 arbres depuis février dernier. Sur place, le reportage de notre correspondant Ernest Mouhero.
Dans son approche des travaux, l'association Dignité Impact implique les jeunes, le responsable religieux et coutumier, les leaders d'opinion dans les écoles, l'administration locale et la société civile en général. Ceci pour redorer la verdure d'antan du groupement d'Irambi-Katana, entaché par une coupe systématique des arbres. L'autorité administrative du groupement de Katana, le chef du groupement intérimaire Janvier Birego Katana, déplore l'état des déboisements très avancés dans son entité.
La population a coupé beaucoup d'arbres et c'est pourquoi aujourd'hui, la pluie est très basse. Nous avons un briqueterie vers Kabamba qui a causé de couper tous les arbres. On va accompagner l'idée Impact en sensibilisant la population.
La quarantaine des jeunes formés à la sensibilisation ont tour à tour planté des arbres au bureau de l'état civil de Katana, au poste du sous-commissariat de la police, dans des écoles et certaines parcelles et champs déboisés. Ces jeunes sont chaque fois accompagnés par les autorités locales et leaders de la société civile pendant les répiquages. Un jeune témoigne.
La première personne qui a planté l'arbre, c'est l'administrateur de notre groupement. Il nous a donné l'exemple. C'est là que nous avions commencé, nous, dans le but de prévenir les sols et d'éviter davantage les inondations et les érosions.
La coordinatrice de Dignité Impact RDC, Emmanuel Antolé, appelle la population à s'approprier l'initiative.
Notre association a un objectif d'encadrer la jeunesse. Nous demandons à toute la population de Katana d'accueillir ces jeunes et de les encourager, mais aussi de ne pas oublier ces gestes qu'ils auront à poser en sauvegardant ou en protégeant l'arbre là que ces jeunes auront à planter dans telle ou telle autre parcelle.
Le vice-président de la société civile d'Irambi-Katana, Jean-Baati Baïga, estime que l'initiative des reboisés tombe à point nommé.
Pour aujourd'hui, nous sommes trop ravis. Ici chez nous, on n'a jamais vu une organisation qui vient soit nous apprendre comment reboiser ou protéger notre environnement à travers la jeunesse. Parce qu'on fait la bataille d'arbres en désordre. Nous voulons maintenant rappeler à la population de bien garder l'environnement, de planter les arbres parce que sans arbres, il n'y a pas la vie.
Au total, 3000 autres arbres pourraient être plantés ainsi que la fabrication des briques écologiques pour réduire la pression de l'homme sur l'environnement en matière de construction au sud Kivu. Le groupement de Katana est situé à environ 45 km au nord de la ville de Bukavu. Ernest Mouhero, Bukavu, VOA Afrique.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
Comme leurs confrères, les femmes journalistes sont parfois victimes d'intimidations, d'arrestations et de violences. C'est ce qui est arrivé à Raissa Silvana Oyeseko, rédactrice en chef des Échos du Nord au Gabon. À l'approche de la prochaine journée mondiale des droits des femmes, Nathalie Barge a tendu le micro à notre consoeur qui témoigne.
Le 5 novembre 2016, j'ai été emprisonnée. Les agents de l'immigration sont venus chez moi. Ils m'ont mis l'arme sur la tempe, ils m'ont pris et arrivé dans leurs locaux, ils m'ont torturé. J'ai saigné jusqu'à perdre un bébé vu que j'étais enceinte. Ils ont voulu que je leur dévoile une source, ce que je n'ai pas fait. Et un monsieur qui m'a reçu, il me dit, moi je m'appelle Torture. Ils m'ont attaché les mains, les pieds et ils m'ont mis sur, on appelle ça chez nous le pont. Et sur le pont, ils m'ont donné des coups de matraque, des coups de pied. Ils m'ont marché dessus. Même en saignant, ils ne m'ont pas lâché. Ils ont continué à me torturer. Mais dès qu'ils ont compris que je n'allais pas révéler ma source, ils ont abandonné. Et l'avocat qui faisait aussi la pression dehors, l'avocat et la société civile qui faisaient aussi la pression dehors. Je crois que c'est suite à ces pressions qu'ils ont arrêté.
Vous avez porté plainte?
Nous avons porté plainte au pays, mais la plainte n'a pas été jugée recevable. Le directeur qui est en exil, Désiré Nam, a porté plainte en France.
Est-ce que vous travaillez dans la peur?
La peur est humaine. Je travaille pas vraiment dans la peur. Au contraire, ça m'a donné du courage. Ça m'a renforcé. C'est vrai, je sais que je suis filée. Je sais que je suis écoutée. Parfois, on m'envoie des messages d'intimidation. Non, je vais faire au mieux mon travail. Une autre fois, je rentrais du journal un soir. Et en prenant un taxi, 4 hommes m'ont tabassé dans le taxi et ils m'ont dit « ça ne fait que commencer ».
Est-ce que vous bénéficiez d'une protection ?
Non. C'est pour cela que les femmes ont peur de travailler, vu que je suis la seule femme qui dirige le journal au Gabon. Et c'est un journal qui n'est pas très tendre vis-à-vis du pouvoir. C'est pour cela que ce journal n'est pas très apprécié.
Qu'est-ce que vous espérez pour votre pays et surtout pour les femmes de votre pays?
Un relâchement. Nous aspirons à la liberté, au développement. Et pour les femmes de mon pays, j'espère qu'elles prendront à cœur leur rôle. En Afrique de l'Ouest, ça va. La femme connaît sa place. En Afrique centrale, quand il y a des grandes manifestations, elle a encore vu comme cette femme qui doit se cacher alors qu'elle a un pouvoir dont elle n'est pas consciente.
La voix de Raissa Sylvana Oyeseko, rédactrice en chef des Échos du Nord au Gabon, que vous pouvez retrouver dans Le Monde au féminin à 19h05 TU pour une édition spéciale dans le cadre du mois des droits des femmes.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Ici même, aux États-Unis, la situation est toujours floue pour près de 700 000 jeunes venus illégalement aux États-Unis avec leurs parents, les fameux Dreamers. Le président Trump a abrogé le programme DACA qui les protégeait de la déportation et qui avait donné au Congrès jusqu'au 5 mars, c'est-à-dire hier, pour régler définitivement la question. Deux tribunaux ont provisoirement suspendu sa décision. Pour en parler, John Linden a joint Sophie Raven, avocate d'immigration.
Il n'y a pas une réponse claire en ce moment parce qu'il faut attendre de voir comment la Cour d'appel va décider de ça. Donc, entre-temps, il y a une cour en Californie qui a fait une injonction pour empêcher justement que le programme cesse le 5 mars. Et donc, les personnes qui étaient éligibles pour justement envoyer leur demande pour de renouvellement de DACA peuvent continuer à le faire jusqu'à ce que le processus suive son cours dans les tribunaux.
On constate que les parlementaires sont très divisés sur le dossier DACA. Est-ce qu'il y a une porte de sortie qui pourrait satisfaire tout le monde?
C'est très difficile à dire parce que tout est devenu très, très politisé. Il y a un désir de justement trouver une solution pour DACA, pour toutes les personnes qui ont le statut de DACA. Mais le problème, c'est que le président veut absolument lier toute solution à de l'argent réservé pour construire le mur entre les États-Unis et le Mexique. Et les démocrates sont complètement opposés à cette idée. Donc, c'est à Donald Trump. S'il retire ce critère, justement, peut-être une solution pour DACA peut arriver. Mais je crois que pour l'instant, l'administration attend la décision des tribunaux. Parce qu'ils ont essayé d'éviter la cour d'appel et faire appel directement à la Cour suprême pour que la Cour suprême prenne une décision, ce qui est vraiment très irrégulier. Et la Cour suprême a refusé d'écouter justement le cas.
Vous êtes avocate, vous êtes basée à New York. Quels sont les cas que vous recevez de vos clients, notamment ceux concernés par ce DACA?
Je reçois de temps en temps des sollicitations et des questions de personnes qui ont DACA pour voir si leur DACA reste toujours valable. Mais je dois malheureusement informer ceux qui cherchent à faire une nouvelle demande de DACA qui ne sont plus éligibles parce que le programme reste en suspens pour toute nouvelle demande.
On écoutait Sophie Ravenne, avocate d'immigration basée à New York. Et voilà, le monde aujourd'hui prend fin ici. La réalisation est signée Lionel Gaïma. Bill Barber était notre ingénieur. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jacques Aristide dans la capitale américaine. Je vous souhaite une excellente soirée sur VOA Afrique. Take care.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.